Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Déclic. Nom masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux. Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 Productions et vous écoutez Le Déclic. Aujourd'hui, on reçoit Pierre. Après un parcours scolaire sans problème, Pierre est devenu prof documentaliste. Sécurité de l'emploi, projet éducatif, tout semblait parti pour durer. Mais un jour, Pierre s'est rendu compte qu'il faisait une dépression. Son déclic, c'est celui d'un changement de vie et d'enfin prendre des décisions par soi, pour soi.
Salut Pierre, comment tu vas ?
Ben ça va, et toi ?
Bah écoute, ça va extrêmement bien, c'est presque le week-end.
Bon bah moi je suis en week-end depuis fin octobre au final, hein, puisque je bosse pas avec le Covid, hein, les escape games sont fermés, puisque je suis Game Master, donc je bosse pas depuis fin octobre.
Et tu le vis comment ça ?
C'est long, ça commence vraiment à faire long pour le coup.
Ouais.
Je m'occupe, hein, forcément, j'ai trouvé de nouveaux trucs à faire et tout ça, j'ai plein de petits projets, mais... C'est vrai que pour le coup, c'est long et c'est comme ce que tout le monde dit avec tout ce qui est la culture et tout ça, c'est un peu l'incompréhension aussi, quoi, de voir que certains trucs sont verts et que nous, on est obligé de fermer alors qu'on respecte toutes les règles de sécurité à chaque fois.
Ouais.
Voilà, c'est toujours la frustration à ce niveau-là, quoi.
Il y a un côté tellement injuste et tellement frustrant, effectivement, ça rend dingo.
Ouais, c'est ça.
Alors, avant de parler de ton déclic, je ne sais pas si tu sais, mais on aime bien revenir un petit peu dans le temps, avant tout ça. Tout d'abord, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et qu'est-ce que c'était ton parcours, en fait, à la base ?
Eh bien, je suis un enfant de la Manche, hein, bon gros normand, hein, fan de cidre et de calva, évidemment, comme tout normand qui se respecte, hein, et de camembert, voilà. Évidemment. Donc voilà, vraiment enfant de la Manche. Et justement, ouais, c'est vrai que mon déclic est encore plus important par rapport au parcours que j'ai eu avant, puisque justement, j'ai fait tout le travail là-dessus et je m'en suis rendu compte, en fait, que moi, en fait, donc j'ai eu mon bac en 2008, bac S et tout, m'en suis assez bien, j'étais fier, machin, bon, sans trop forcer et tout, donc c'était tranquille. Et c'est posé la question de savoir ce que je voulais faire après.
Mm-hmm.
Et ne sachant pas trop, je me suis dit, je vais suivre mes potes. Donc j'ai fait un DUT, donc dans l'informatique, donc génie électrique et informatique industrielle. Ça pète un peu quand on dit ce genre de truc.
J'avoue, je comprends pas tous les mots, donc je trouve ça formidable, forcément.
C'est ça, ça passe bien. Du coup, là-dedans, j'ai appris notamment de l'électronique, d'électrotechnique, des choses comme ça, des trucs assez compliqués de la technique électrique, mais surtout l'informatique. Et je me suis aperçu que vraiment, j'adorais ça, de coder des choses. J'ai bien aimé ça. Du coup, après le DUT, j'ai basculé sur une licence d'info, puisque du coup, le DUT, c'est en 2 ans. Donc, j'ai voulu aller en licence pour avoir un bac plus 3 et me spécialiser dans l'informatique. Et c'est de me poser la question après l'informatique, mais je veux faire quoi après ? Parce que c'est assez bien, je sais programmer des choses, mais pourquoi faire en fait au final ? Et en réfléchissant un peu, et avec mon ex qui était en études de prof des écoles à l'époque, je me suis dit, mais ça c'est cool en fait, j'aimerais bien apprendre aux enfants ou aux jeunes comment faire certaines choses ou quoi que ce soit. Et je voulais pas me spécialiser en fait, je savais que les petits c'était pas pour moi. Je me suis dit, prof de collège, ok, collège, lycée, pourquoi pas. Mais je voulais pas me spécialiser dans un domaine et du coup, j'ai découvert le parcours de professeur documentaliste. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est que les professeurs documentalistes ?
Absolument pas, donc je suis tout ouïe.
Et c'est les dames du CDI.
Oh !
Donc voilà, j'ai été la dame du CDI. Y a une bonne vanne là-dessus d'ailleurs, c'est que pendant mon... En fait, pour être prof, tu fais... Là, j'ai fait donc un master MEF pour être prof. La première année, tu prépares le concours. Si tu as le concours, en deuxième année, tu es à mi-temps au master et à mi-temps en stage professionnel.
D'accord.
Sur un lycée ou sur un collège, sur un établissement.
Parce que toi, t'as quel âge, pardon, excuse-moi, parce que...
Pardon, j'ai 30 ans actuellement.
D'accord, ok. Donc, toi, ton master, c'était à l'IUFM ou à la fac?
À l'époque, c'était plus l'IUFM, c'était l'ESPE. Donc, je sais plus le nom, je sais plus ce que signifiait l'ESPE. Je sais plus c'est le nom du sigle, mais voilà. Mais c'était le même style, hein. C'était le même style que l'IUFM. C'était ce qu'a suivi les UFM. Et du coup, pendant mon année de stage, j'étais dans un lycée et j'avais la chance d'avoir une personne avec moi, en fait, une autre professeure documentaliste, en fait, qui me laissait le vendredi tout seul. Donc vraiment, j'étais en vraiment totale responsabilité. Mmh. Et j'étais avec une classe, il y a un pion qui arrive, un AUD maintenant, comme on dit, qui arrive, qui passe la tête. Elle n'est pas là, la dame du CDI? Si, elle est là. Donc voilà, c'est encore très très peu connu, ce métier-là.
Ouais.
On passe un CAPES, hein, pour être prof documentaliste, c'est un CAPES. Mmh. C'est un métier qui est très compliqué.
Ouais.
Parce qu'en fait, on a cette double casquette de prof et de documentaliste, donc on a quand même certains cours à donner. On n'a pas d'heures forcément le plus du temps, même si certains en ont. Globalement, on n'a pas d'heure l'emploi du temps, mais on doit donner des cours et en même temps, on doit gérer tout ce qui est le fonds documentaire, les bouquins, commander les nouveaux livres, virer ceux qui vont plus, trier tous les périodiques que tu reçois. C'est vraiment un gros, gros taf que peu de gens connaissent, en fait.
En fait, c'est à la fois, tu es professeur et en même temps bibliothécaire, quoi.
C'est exactement ça. C'est vraiment un mélange des deux. Et donc en fait, en tant que professeur, tu dois justement non seulement apprendre à utiliser le CDI, mais les rôles vont bien au-delà de ça. Tu dois apprendre à rechercher de l'information, trier de l'information. Maintenant, c'est vraiment plus maintenant du tri de l'information. Je pense qu'on est à peu près de la même génération. À notre époque, c'était plus rechercher de l'information dans les dictionnaires, les encyclopédies. Internet était quand même encore, on va dire, au balbutiement quand même au collège, un peu moins au lycée.
Attends, j'ai une question. Est-ce que tu avais Encarta encore ou pas?
À l'époque, bien sûr, évidemment.
Wow.
Évidemment. Encarta 2000. J'ai passé des heures sur le PC de mes parents sur Encarta 2000. Attends, évidemment.
Ouais, oui.
C'était le truc. Ouais.
C'était notre Wikipédia à nous, finalement. Hein.
C'est ça. Mais ouais, donc maintenant, c'est vrai que le rôle des prof docs, c'est aussi plus d'apprendre à trier en fait, l'info. C'est plus vraiment de la trouver, mais de comparer les sources, savoir quelles sources sont fiables. Vraiment, et puis pas justement quand tu réutilises, quand tu fais un travail, ne pas forcément faire que du copier-coller, comprendre ce que tu utilises. C'est ça qui est vraiment cool dans ce métier. Voilà. Et c'est ce qui m'a plu en fait quand j'ai voulu aller là-bas, c'est qu'en fait tu pouvais toucher à tous les domaines.
Ouais.
Tu vas travailler avec des profs de français évidemment, mais tu peux travailler avec des profs de sciences, avec des profs de maths, avec des profs d'anglais, de langue. J'ai même travaillé avec des profs de sport.
Ah ouais?
Ouais, ce genre des petits projets, genre justement sur l'histoire du sport, des choses comme ça, sur pourquoi telle règle avait évolué, des choses comme ça. C'était super intéressant, tu vois. C'était super varié. Et puis les TPE aussi, t'as dû connaître ça aussi.
Sûr. Évidemment.
Donc c'était pour certains, je sais que mon année de stage, j'ai carrément été jury de TPE.
Ok.
C'était trop cool.
Et tu te sentais intégré dans l'équipe de prof ou y a quand même un statut à part du prof doc
C'est compliqué. C'est-à-dire que ça dépend beaucoup des profs.
Ouais.
Alors j'étais dans un lycée qui était un lycée, je crois que c'est le lycée polyvalent. Donc en gros, tu avais de toutes les filières générales, enfin tu avais plusieurs filières générales et tu avais tout un côté professionnel à la fois aussi. Donc j'avais, je sais plus, c'était de la métallurgie, des choses comme ça, et en même temps on voyait beaucoup de publics différents, et assez surprenamment, je me suis aperçu que les profs de lycée pro étaient beaucoup plus enclins à venir me voir que les profs de général. On pourrait penser justement que ça va être ceux qui vont bientôt voir pour des projets, ça va être les profs de français, ça va être... En fait, la majeure partie des projets que j'ai fait, c'était avec un prof de sciences.
D'accord.
Et de lycée pro.
Ok.
Donc c'était vachement intéressant, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Et pour le coup, les profs ne me considéraient pas comme un stagiaire, mais comme un prof. Ça, ouais, c'était super cool, vraiment.
Ouais.
Donc je me suis vraiment senti vachement bien accueilli et tout ça. C'était vraiment cool. Je m'approche du déclic, pas pour le
coup. Parce que du coup, ton déclic, ça s'est déclenché après une dépression, donc.
C'est ça. En fait, Donc après cette année de stage, ce qui se passe quand c'est comme ça, donc tu fais tes vœux pour savoir dans quelle académie tu vas aller. Sachant qu'à l'époque, avec mon ex, on était paxés, donc j'ai pu réussir à rester dans l'académie, ce qui est très compliqué pour les nouveaux profs. Donc j'ai pu rester dans l'académie de Caen, c'était vraiment très très cool. Et une fois que c'est fait, tu fais une demande pour un collège, une zone, quoi que ce soit. Et j'ai réussi à avoir un collège dans la Manche. Ce qui, ironiquement d'ailleurs, était le collège où j'avais fait la moitié de mes études de collège.
Alors, moi j'ai failli être prof, et en fait, mon angoisse c'était d'être dans mon ancien collège ou mon ancien lycée, parce que j'avais pas forcément envie de revivre ces années-là, tu vois. Enfin, je sais pas, comment tu t'es sentie de revenir dans le collège où t'avais fait tes propres études à toi ?
Bah justement, j'ai eu des sentiments assez contradictoires, c'est-à-dire qu'à la fois j'étais rassuré de me dire « je serai en terrain connu ». Je ne vais pas être lâché dans un truc que je ne connais pas du tout. Pour la première année, un truc, j'avais la pression. Donc, je voulais bien faire. Et je me suis dit, déjà, je connais les lieux. Et je savais qu'en plus, le CDI était très cool là-bas. Puisque déjà, il était cool quand j'y étais. Et je savais qu'il avait été vraiment amélioré en plus. Donc, ça m'a un petit peu rassuré sur ce point-là. Après, j'avais peur justement d'asseoir, on va dire, une certaine autorité et une certaine légitimité avec mes collègues profs, en fait. Parce que je me suis dit, si, et c'est arrivé, j'ai revu plein de profs que j'avais eus en tant que prof, qui étaient de mes collègues. Donc passer du « bonjour monsieur machin » à « salut Michel », c'est pas évident. Quand tu arrives pour le café du matin, « bonjour madame, comment vous allez ?» tu te retrouves facilement dans la posture, en fait, d'élève, en fait, quand tu es dans la salle des profs, ce qu'il faut absolument pas, déjà. Donc ce qui était assez compliqué. Après, eux, ils m'ont bien intégré. Mais c'est vrai que j'ai déjà cette petite quand même appréhension de dire je suis prof, mais en même temps, c'est des gens que j'ai qui m'ont enseigné des choses, quoi.
Ouais, tu t'es senti tout petit, quoi, un peu.
C'est ça. Donc c'était un peu le sentiment un peu contradictoire à ce niveau-là. Mais le début de l'année s'est bien passé, en fait. Il a fallu que je prenne mes marques, j'ai fait pas mal de choses et tout. C'était assez compliqué et j'ai voulu aussi mettre en place des trucs assez originaux qui me ressemblaient plus.
D'accord.
Genre, j'avais réussi à mettre en place, c'était un atelier jeu de société. C'est-à-dire cool. Je crois que c'était le jeudi que je faisais ça, dans la dernière heure de cours, en fait, pour ceux qui ne pouvaient pas rentrer chez eux ou quoi. Je suis un fan de jeux de société, j'en ai une montagne, vraiment une montagne. Clairement, j'ai une bibliothèque remplie de jeux de société. Et du coup, je les amenais. Et ça a plu beaucoup, en fait. J'avais une quinzaine d'élèves qui venaient régulièrement. Et ça permettait aussi, en plus, de parler avec des élèves et tout, qui n'avaient pas forcément l'habitude de venir au CDI. Donc, ça a bien marché. Donc ça, au début, ça marchait plutôt bien, tous ces trucs-là. Et le problème, c'est que justement, je me suis mis vraiment la pression pour réussir. Et en même temps, j'étais pas à l'aise, en fait, dans ce que je faisais. C'est-à-dire que je faisais ça de manière très mécanique. J'essayais d'appliquer ce que j'avais appris et en même temps, j'arrivais pas à voir l'intérêt de ce que je faisais, je me sentais pas bien dans mon taf et je me suis mis la pression de manière ultra maladive et en plus, je me suis pas senti soutenu, pas par les collègues, mais par la hiérarchie en général.
Dans quelle mesure ?
Déjà, je m'étais fait inspecter donc l'année d'avant pour savoir si j'allais titulariser, j'ai appris que j'allais être réinspecté cette année-là, ce qui met une pression monstre.
Tu m'étonnes.
Parce que c'est ta première année, t'es encore en train de prendre tes marques et on te dit, bah voilà, tu mets en place un projet, puis on va venir t'évaluer là-dessus, et puis ça va potentiellement affecter ta carrière pour les années à venir. Ok, laissez-moi le temps d'arriver. Donc déjà, ça n'a pas aidé, et j'ai eu des retours comme quoi, justement, la hiérarchie n'avait pas apprécié le projet que j'avais mis en place, justement. Il ne trouvait pas ça utile.
C'était quoi ?
Il trouvait pas ça utile, donc justement, le projet de jeu de société.
Ah, ok.
Il ne trouvait pas ça utile, il ne trouvait pas ça pertinent. Alors, j'ai défendu mon bout de grain, je leur ai expliqué, justement, ça me permet de voir des élèves, de faire venir des élèves de manière différente au CDI. J'avais prévu même de, pourquoi pas, mettre en place un système de prêt de jeu de société, tu vois, pour essayer d'ouvrir un peu plus le CDI à ces choses-là. Ça m'a foutu un coup vraiment de me dire qu'un truc qui marchait, j'avais vu vraiment des élèves qui commençaient à s'ouvrir, à parler et tout, qui en final, t'es pas soutenu par les mecs qui sont censés être tes chefs, tu vois.
Bien sûr. Oui, parce que eux, ils voient, enfin, ils ont l'impression que genre les élèves font mumuse, mais en vrai, c'est un vrai truc, ça crée du lien social, ça permet de s'habituer au lieu du CDI et potentiellement bah, d'emprunter un bouquin en plus du jeu de société et tout ça.
C'est ça, et puis je m'arrangeais pour amener des jeux aussi qui transmettent aussi d'autres valeurs, genre des jeux, beaucoup de jeux coopératifs, de jeux comme ça
Ouais.
qui demandent aussi à communiquer. Ça forçait les gamins un peu plus réservés à s'ouvrir un peu plus, et ça marchait vraiment, ça commençait à marcher un peu et tout. Donc vraiment, j'ai pas compris en fait ce manque de soutien de la part de la hiérarchie. Puis bon, la petite ironie aussi de ce genre de choses, on a un inspecteur, forcément, comme tous les profs, on a un inspecteur en tant que prof documentaliste, qui s'avère être le même que celui des CPE. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Je ne sais pas. Mais pour le coup, mon inspecteur avait passé sa carrière en tant que CPE, n'avait jamais été prof doc. Ça faisait quelques temps maintenant qu'il était inspecteur, mais ça n'empêche que je ne pouvais pas m'empêcher de penser, mais mec, t'as aucune expérience de prof doc et tu viens me dire comment faire mon taf. Enfin, c'est un peu dissonant, tu vois.
Il n'y a absolument rien à voir entre ces deux métiers complètement différents, quoi.
Bah,
Enfin...
c'est ça, enfin, à part le lien avec les élèves, c'est totalement différent, quoi. Donc,
Grave.
j'ai jamais compris cette dualité entre les deux. On a l'impression que c'est bon, bah, ces deux-là, on s'en fout un peu, on va leur mettre les mêmes inspecteurs et puis on les laisse de côté. Donc, il y a eu ça, et bah, je me suis, moi, mis la pression et je me suis en fait pris dans la gueule en fait cet enchaînement de décisions qui m'avait amené ici en fait. Et je me suis dit que j'avais jamais, c'est à ce moment-là que je me suis aperçu que j'avais jamais fait un choix pour moi, plus en mode je me laisse porter. Que je suis parti en DUT parce que j'ai suivi mes potes, je suis parti en licence parce que j'aimais l'informatique, mais j'ai suivi mes potes, je suis parti en tant que prof parce que mon ex était instit. J'ai vraiment, je me suis pris tout ça en même temps en fait dans la gueule en mode bah j'ai jamais fait de choix en fait, j'ai jamais choisi un truc pour moi en fait, j'ai pris un truc qui parce que les autres ont l'air de trouver ça cool donc je vais aller par là, mais j'avais jamais vraiment réfléchi à ce que moi je voulais faire en fait. Et c'est aller assez loin, à me mettre la pression, à forcer, forcer pour essayer de dire non, mais je vais y arriver, ça va finir par me plaire et tout. Ou un jour, j'ai failli aller très loin, c'est-à-dire que j'ai failli me suicider. C'est-à-dire que en fait, le CDI était au troisième étage, j'étais au boulot. Je suis arrivé un matin, j'ai fondu en larmes devant mon PC, pour aucune raison.
C'était la première fois que ça arrivait?
Bah, au boulot, ouais. Et bien, il y avait aussi le fait que j'en parlais à personne, même mon ex, j'en parlais vraiment à personne que ça allait pas. Et j'ai ouvert la fenêtre pour prendre l'air, je me suis dit, j'ai eu presque eu l'impression de me dire, pourquoi pas passer quoi. Donc c'est. En fait, j'ai eu ce déclic, en fait, justement à ce moment-là, de dire, waouh, là il y a un problème, là il y a un gros gros problème. J'ai réussi à me dire ça. J'ai réussi en fait à finir la journée, je sais pas comment. Je t'avoue que les souvenirs sont assez flous de cette journée, juste je me vois vraiment ce moment de craquage. Et je suis rentré chez moi et là j'ai tout balancé en fait à mon ex et ça va pas quoi.
Elle a réagi comment?
Bah, elle savait pas. En même temps, en fait, elle était passée presque par là, c'est-à-dire que elle n'était plus instite non plus. Voilà, en fait, c'est vrai, c'est le truc que j'avais pensé à dire aussi, c'est que, bah, en fait, elle aussi a vécu pas la même chose, pas au même niveau, on va dire, pas au point d'en arriver là, mais elle a aussi eu un gros coup de mou en mode, bah, c'est pas vraiment ça que je veux faire, en fait. Et donc, elle avait arrêté d'être instite, elle avait trouvé un autre boulot et tout. Et du coup, elle m'a bien soutenu à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle a compris en fait que bah, j'étais un petit peu dans la même situation qu'elle. Je crois que je ne lui ai pas dit que j'ai mis du temps en fait à le dire aux gens que c'était allé si loin que ça. Je lui ai pas dit que c'était allé si loin, mais genre, elle a compris que ça allait vraiment pas, quoi. J'ai fondu en larmes, j'étais en bloc. Donc elle m'a bien soutenu à me dire, bah, écoute, prends ton temps, voilà, réfléchis à tout ça. T'as des solutions. À partir de ce moment-là, en fait, je suis allé voir justement mon médecin. C'était juste avant les vacances de Noël. Donc, vraiment, ça s'est passé vraiment très rapidement. C'était vraiment septembre et décembre que j'ai eu cette espèce d'accumulation de choses. Et donc, vacances de Noël, je suis allé voir mon médecin qui m'a arrêté, arrêt de travail direct avec médicaments. Alors, c'était assez léger au départ. Et ça n'a pas augmenté après, justement j'ai pu rester sur des médicaments on va dire assez soft parce que je voulais pas un truc justement Mais prendre le risque d'avoir des médicaments qui te rendent dépendant ou quoi que ce soit, ça peut arriver avec ce genre de choses. Donc je voulais quand même quelque chose de léger au début et puis bah augmenter si ça marchait pas. Et donc j'ai été arrêté au tout 6 mois, je crois. Donc de décembre jusqu'à juin, c'est ça, donc jusqu'aux vacances d'été, où je faisais arrêt régulièrement, arrêt de travail sur arrêt de travail. Pour savoir ce que je vais faire, avec en autre côté, j'ai eu une thérapie avec une psychologue pour m'aider à comprendre ce qui s'était passé, comprendre ce que je voulais. Elle m'a beaucoup aidé, comprendre beaucoup de choses. Vraiment, je ne sais même plus combien de séances j'ai faites, mais elle m'a vraiment beaucoup aidé à voir des choses, non seulement professionnellement, mais aussi personnellement. Donc ça m'a vraiment fait un bien fou. Donc, je crois qu'il existe des aides pour ceux qui se demanderaient. Je crois qu'il existe beaucoup d'aides pour ceux qui en auraient besoin, qui pourraient pas avoir les moyens ou quoi. Moi, à l'époque, j'avais les moyens, mais je sais qu'il existe des aides.
Oui, les CMP notamment. Les centres médico-psychologiques, il me semble.
Ouais, je crois que c'est ça. Et moi, j'ai eu la chance en fait de pouvoir me le payer, donc voilà, je l'ai fait. Mais n'hésitez pas, franchement, les gens, à aller parler de ses problèmes à un psychologue. Déjà, c'est quelqu'un qui vous juge pas et surtout que vous ne connaissez pas. Ça peut avoir une importance énorme. Parce que clairement, j'ai plus parlé en fait avec la psychologue qu'avec certains proches. Parce que j'avais toujours eu ce problème de dire je veux pas les inquiéter. Je veux pas qu'ils sachent à quel point ça va pas et tout. J'ai pas envie de leur faire du mal pour que eux après aillent mal. Et du coup, c'est beaucoup plus facile d'en parler à une psychologue.
Mais
quoi.
Est-ce que maintenant, tu parles, enfin quand ça va pas, t'en parles un peu à ton entourage ou est-ce que t'as quand même gardé cette. C'est pas forcément de la pudeur, mais ce côté secret.
J'ai toujours ce côté secret, mais beaucoup moins qu'avant.
Ouais.
Et surtout, en fait, après tout ce que j'ai traversé à ce moment-là, j'arrive vraiment à relativiser ce qui m'arrive. C'est-à-dire que quand ça va pas, j'arrive à me dire, c'est rien. Ça va passer, je me pose, je pense à autre chose, je fais autre chose, et ça va passer. Et si ça passe pas, là, je peux en parler. C'est pour ça aussi que ça m'a beaucoup aidé aussi d'en parler avec un psychologue. Ça m'a permis aussi de faire un travail sur moi pour me dire, ok, là, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Est-ce que je peux faire quelque chose pour que ça aille mieux? Est-ce qu'il faut que j'en parle à quelqu'un ou pas? J'arrive à avoir ce réflexe de dire est-ce qu'il faut que j'en parle ou pas? Souvent, en fait, je m'aperçois que je peux gérer moi-même. Mais je sais aussi quand ça va pas et quand il faut que j'en parle. C'est compliqué, j'ai encore des mauvais réflexes, faut être clair, hein. Ça disparaît pas comme ça.
En même temps, c'était il y a combien de temps, ça, ta thérapie ?
C'était il y a 5 ans maintenant.
C'est encore, mine de rien, à l'échelle d'une vie, c'est encore assez récent, donc c'est normal que que ce soit des mécanismes à mettre en place qui prennent un peu de temps, quoi.
C'est ça. Et surtout, en fait, maintenant, déjà, la thérapie m'a aidé à savoir quoi faire pour... quel choix faire pour moi aller mieux.
Ouais.
Et voilà, pour améliorer les choses moi-même aussi. Et en parler, justement, et pas avoir peur d'en parler quand vraiment je gère pas.
Et après ça, il s'est passé quoi? Donc, parce que là, on arrive aux vacances d'été, donc t'as été arrêté depuis les vacances de Noël.
C'est ça. Donc là, je me renseigne pour faire ce qu'on appelle une mise en disponibilité. C'est-à-dire qu'en gros, tu n'es plus payé par l'Éducation nationale, puisque là, forcément, j'avais quand même encore un salaire, etc., en arrêt de travail, etc.
Bien sûr.
Et donc là, en gros, l'idée, c'est que tu es toujours sur les listes de l'Éducation nationale, j'arrive plus à trouver le mot, c'est horrible. Des fonctionnaires, pardon.
Ouais.
C'est un mot compliqué. J'étais encore sur la liste des fonctionnaires, mais plus officiellement professeur à ce moment-là. Et donc, la disponibilité, c'est 1 an. C'est en gros pour prendre une année sabbatique, entre guillemets, où au bout d'1 an, tu peux dire « Ok, très bien, je reviens dans le système et je peux recommencer et je peux revenir. » Parce que j'étais quand même encore à ce moment-là, j'ai quand même fait des études longues, j'ai fait un concours qui est difficile, donc je vais pas acheter ça aux orties non plus. Si jamais je change d'avis ou si jamais je découvre que finalement je peux faire d'une autre manière, je me garde la possibilité de revenir différemment. Mais voilà, en juin, donc j'envoie ma lettre au rectorat pour dire voilà, je demande mise en disponibilité pour convenance personnelle pour une durée d'1 an. Donc en gros, pendant 1 an, je ne suis pas payé, je ne suis plus prof officiellement, mais je peux revenir si j'ai besoin.
D'accord.
Et après, il faut bien manger. donc ouais. j'ai, J'ai, donc ça, c'est la mise en dispo, la mise, pardon, en dispo a été faite pour le septembre, pour la rentrée de septembre. Et donc du coup, bah, à partir de septembre, j'avais plus de salaire nanana. Donc juin, juillet, j'ai commencé à chercher du taf, voir un petit boulot, des choses comme ça. Je voulais prendre du temps pour moi aussi, donc je voulais pas forcément rien de vraiment très prenant au niveau temps, parce que j'avais encore besoin de temps pour savoir ce que je voulais faire. Donc j'ai fait beaucoup de choses d'intérim. Voilà, notamment travailler à Elvire, à Condé-sur-Vire. Donc j'ai empaqueté du beurre. Des choses comme ça, c'était
tellement
assez
normal.
Intéressant. Ah, tout à fait. Ah, on peut pas faire plus normal que ça pour le coup. J'ai empaqueté du beurre, empaqueté du lait, rempli de yaourt. Vraiment, c'était assez intéressant. Honnêtement, j'ai fait ça pendant 2-3 mois. C'était vachement cool. Et il s'avérait que bah, ceux qui étaient donc, à ce moment-là. Donc, autre chose aussi que j'ai pas dit, c'est que ma thérapie m'a permis aussi de débloquer un truc chez moi qui a fait que je me suis lancé et que j'ai demandé mon ex en mariage.
Ok.
Donc on s'est marié alors en 2015, en juillet 2015 on s'est marié. Et donc du coup, donc celle qui était devenue ma femme, avait changé aussi, était devenue directrice de centre aéré. Et je me suis dit, bah, ça pourrait être cool pour le coup d'être animateur, c'est un truc qui pourrait me plaire, je vais tenter, ils avaient besoin pendant les vacances. Je me suis dit, bah, let's go, je tente ça, ça fait un peu de thunes qui rentrent. Et je vais tenter pour une vacance, c'était je sais plus quelle vacance, c'était un truc de 2 semaines. Je vais être animateur. Et j'ai surkiffé ça. Vraiment, j'ai surkiffé le truc. Bah parce qu'en fait, je pouvais vraiment apporter mes passions. J'ai fait du jeu vidéo avec eux, j'ai fait des jeux de société avec eux. Et les enfants te le rendent en plus. C'est ça qui est cool. C'est ça qui fait du bien. C'est quand t'es doué dans ce truc-là, tu le sais parce que les gamins, ils te kiffent et ils te le rendent en fait. Tu vois la différence, moi qui ai fait ça justement pendant quelques temps, tu vois la différence entre les animateurs qui marchent et les animes qui ne marchent pas. Et je savais que j'étais doué pour ça. Et c'était la première fois en fait que j'arrivais à me dire, je suis doué pour un truc.
Donc c'est marrant parce que là, à nouveau, tu as suivi quelqu'un que tu connaissais dans ta vie perso, qui faisait partie de ton quotidien. Tu l'as suivi professionnellement, mais là pour le coup, tu as eu une sorte de coup de cœur pour le métier quoi.
C'est ça, et surtout, je savais que je suivais cette personne. Enfin, c'est moi que je l'ai suivi, que j'ai profité de l'opportunité. C'est-à-dire qu'avant, vraiment, je suivais sans vraiment savoir. Là, je me suis dit, bah, c'est un truc qui peut me plaire, et je vais essayer. Mais je vais essayer pour moi. Je vais pas essayer pour suivre telle personne, je vais essayer pour moi. Et je crois que c'est la première fois que j'ai vraiment fait un choix pour moi, en fait. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai été doué là-dedans, c'est que j'ai fait vraiment le truc pour ma gueule. Hein. C'est un truc qui va revenir, mais ça paraît égoïste de dire, mais j'ai fait pour ma gueule. Et c'est ça qui m'a fait du bien, en fait. Et vraiment, bah, j'ai évolué au sein de cette structure-là pendant... alors, quand est-ce que c'était ? J'ai dû arrêter en 2017. Donc j'ai fait quasiment 2 ans, en fait, complet dans cette structure-là. Avec aussi, à cette époque-là, c'était la semaine de 4 jours pour les enfants à l'école. Ils avaient développé les temps d'activité périscolaire. Je sais pas si tu en avais entendu parler, ce truc-là.
Pas trop, non.
C'est en gros, bah, vu que c'était la semaine, pardon, c'était pas la semaine de 4 jours, c'était la semaine justement de 4 jours et demi. Et en fait, donc du coup, les enfants finissaient l'école plus tôt, et ça devait être vers 15h. Et à 15h, ils avaient des activités organisées par les mairies. Ce qui a été plus ou moins bien fait dans certaines communes. Il se trouve que quand on vient survivre, c'était vraiment génial, parce qu'ils ont fait appel aux animateurs du centre aéré notamment, et à d'autres animateurs, mais ils ont fait appel au centre aéré pour proposer des activités. Et du coup, j'avais vraiment un emploi limite quasiment à temps complet grâce à ça. Donc, je faisais lundi, mardi, jeudi, vendredi, les temps d'activité périscolaire où je proposais des activités sur un thème par trimestre. C'était vraiment trop, trop cool parce que j'ai pu, grâce au centre aéré, ils avaient une caisse avec des lunettes astronomiques et j'ai pu faire tout un bloc astronomie qui a beaucoup plu. J'étais super content et les gamins étaient à fond dedans. On est passé dans la presse, c'était trop cool quoi. Je suis passé dans la presse locale quoi, attention. Non mais c'était vraiment, vraiment très très cool. J'ai pu faire un truc de jeu vidéo. J'ai réussi à proposer du jeu vidéo à l'école en temps d'activité périscolaire.
Génial.
Et les mecs d'État, putain, vas-y, go. C'est même pas genre t'es sûr ou quoi. Non, vas-y, let's go. C'est une super structure à ce niveau-là, c'est que j'ai pu faire ce que je voulais. Je propose un projet, vas-y, essaye. Si ça marche pas, bah tant pis, ça marche pas.
Complètement l'inverse de ce qui s'est passé au collège, quoi.
Tellement, tellement. C'était l'opposé. Je pouvais tester. Il y a des trucs qui n'ont pas marché. Mais j'étais satisfait de voir qu'il y avait plein de trucs que je proposais qui fonctionnaient auprès des gamins. Et j'ai réussi à atteindre mes objectifs, justement. C'était pas, je faisais pas du jeu vidéo pour dire « Allez, c'est bon, mettez-vous devant l'écran, et puis basta, quoi. » Non, je leur ai fait découvrir des jeux style Guitar Hero, pour leur faire découvrir de la musique, pour leur apprendre aussi un jeu de rythme. Je leur ai montré Zelda à l'époque, quand il est sorti. Parce que à l'époque, ils connaissaient pas trop. Donc ils ont kiffé un univers un peu différent comme ça, que le jeu vidéo, c'était pas juste c'est Call of Duty, je tire sur des gens, et c'est Fortnite, et c'est rigolo. Il y en a beaucoup qui étaient comme ça à l'époque, et je leur ai dit, non mais regardez, il y a plein de jeux qui sont vachement intéressants, qui sont vachement jolis, qui sont vachement beaux, qui sont l'histoire est prenante. Ça a beaucoup marché, et j'étais super content de ça, de voir qu'ils évoluent avec ça. C'était vraiment trop génial. Et pour la première fois, encore une fois, j'avais fait un choix pour moi, et en plus, j'arrivais à faire ce truc-là par moi-même, c'était trop bien. Quoi.
Et parce que c'est pas le métier que tu fais aujourd'hui, donc du coup, je me demande qu'est-ce qui s'est passé.
Ça s'est pas très bien fini, pour le coup, avec le centre aéré, parce que au final, j'ai pris du galon au fur et à mesure.
Ouais.
Et notamment, petit truc ironique, c'est que je me suis aperçu que j'ai passé mon BAFA, justement, pour avoir un diplôme, même si, bon, j'avais déjà une expérience avec les enfants et tout, mais j'ai passé le BAFA pour avoir vraiment un vrai diplôme. Et je me suis aperçu, après avoir passé le BAFA, au moment d'aller le récupérer, qu'en fait, j'avais non seulement pas besoin de le passer parce que mon diplôme Master MEF me donnait l'équivalence du BAFA.
D'accord.
Mais elle me donnait même l'équivalence du BAFD, c'est-à-dire que je pouvais être directeur de centre.
Okay.
J'étais un petit peu énervé de me dire ça coûte cher quand même la formation et finalement je l'ai faite pas pour rien parce que j'ai appris beaucoup de choses par la formation, mais me dire alors qu'en fait j'aurais pu ne pas le faire, quoi.
Bah ouais, c'est ça, le temps que t'aurais gagné, quoi. Mais bon,
c'est ça, je regrette pas parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris aussi. Ces deux formations là m'ont beaucoup appris vraiment à ce niveau là et du coup je suis devenu directeur adjoint de la structure. En fait c'est une structure un peu particulière, c'est devenu un espace de vie sociale. Donc à la base c'était vraiment que le centre aéré, et maintenant ils ont un petit peu évolué pour devenir, ils ont trois pôles, ils ont le pôle centre aéré, le pôle famille et le pôle ado. Ils essaient de développer un petit peu tout le lien familial qu'il peut y avoir dans ce truc là, c'est super intéressant vraiment, c'est vraiment un beau projet pour le coup qu'ils ont. Et donc il y avait ma femme à l'époque qui était directrice du centre aéré, et il y avait une personne qui était au-dessus d'elle, qui était directeur du pôle, etc., qui était le directeur, on va dire, historique de la structure. Il se trouve que c'était génial jusqu'au moment où, en fait, je me suis aperçu que moi, j'étais pas fait pour être directeur. Je suis pas assez organisé pour ça, je suis pas assez... j'avais besoin, en fait, justement, d'être en activité, en fait, justement, de faire des choses aux gamins, de leur faire découvrir des trucs. Et... ce que je faisais beaucoup moins parce que c'était beaucoup plus administratif, c'était réservation de séjour, c'était machin. Quand tu passes la moitié de ton temps dans ton bureau, tu fais je me fais un peu chier, quoi.
Ouais, je comprends. T'as besoin d'être sur le terrain, t'as besoin d'avoir le truc de transmission.
C'est exactement ça. Donc, déjà, ça m'a pas plu et disons que ça commençait vraiment à m'énerver certaines réflexions qui se sont passées dans la structure. Je leur jette pas la pierre, mais c'est vrai que la gestion n'était pas toujours ouf et comment dire, j'avais pas l'impression non plus d'être reconnu pour ce que j'avais fait.
D'accord.
C'est-à-dire que on te laisse faire beaucoup de choses, mais on te dit pas quand c'est bien ou pas, quoi. Pareil, ça paraît très égoïste, mais d'avoir un merci de temps en temps, de merci d'avoir proposé tel truc, merci d'avoir fait ça, ça fait du bien aussi. Et du coup, je me suis dit, je vais peut-être essayer de trouver... À la base, c'était vraiment d'essayer de partir dans une autre structure, d'essayer de trouver un poste d'animateur ailleurs. Et puis, j'ai découvert... je sais pas si je peux faire de la pub pour une chaîne, toute petite chaîne YouTube, qui est un petit peu...
Vas-y, bien sûr.
C'est une chaîne qui s'appelle T'as vu à quoi tu joues.
Ok.
C'est une chaîne c'est des Normands aussi qui font ça, des Canets. Ils ont un peu arrêté parce que je crois que ça n'a pas vraiment pris. Et ils sont arrivés aux 1000 abonnés, je crois, ce qui est déjà beaucoup, hein, mais... ça suffit pas pour faire ça régulièrement, ça coûte cher, hein, tu sais toi-même, je pense. Il me semble que tu as une petite chaîne YouTube aussi. Mais voilà, ils ont un petit peu arrêté, mais c'est une chaîne qui parlait de jeux de société, donc c'est pour ça que je m'y suis intéressé. Et un jour, ils ont fait une vidéo sur un jeu qui s'appelle Time Stories, qui est un jeu d'escape game. Et ils sont allés tourner dans une boîte qui s'appelle Get Out, à Caen, qui est un escape game. Et c'est là que j'ai découvert le principe des escape games. Je me suis dit, mais ça a l'air trop cool ce truc. Ça a l'air trop trop bien.
C'est un jeu de société à taille humaine.
C'est ça, c'est trop génial. C'est des énigmes quand tu faisais genre les trucs dont t'es le héros, des choses comme ça. Sauf que là, t'es dans une vraie pièce. T'as des objets, tu peux vraiment fouiller, tu peux foutre le bordel, entre guillemets, pour tout fouiller. Ne le faites pas, c'est chiant de ranger derrière quand vous foutez le bordel.
Ouais, c'est la meilleure partie, pardon.
je sais. Quand c'est le bordel partout, c'est chiant. Et surtout, si une porte ne s'ouvre pas, c'est qu'elle ne s'ouvre pas. Ah. Ne forcez pas, ça ne sert à rien. Désolé. N'arrachez pas la poignée. La poignée ne fera rarement partie d'un objet à utiliser, sauf si elle s'enlève directement. Je préfère vous prévenir.
Bon, bah c'est bon à savoir pour quand ça rouvrira, alors.
C'est ça. Mais du coup, j'ai découvert ce principe-là. Et donc, au départ, par les jeux de société. Et puis après, je me suis dit, il faut vraiment que j'en fasse un. Donc, j'en ai fait un, donc un Get Out ailleurs, pour le coup, à Cherbourg. Mm-hmm. Et j'ai kiffé le principe. Et un jour, je vois sur Facebook, offre d'emploi, Game Master... Donc pareil, l'année où je commençais à me dire, je vais peut-être changer d'endroit, offre d'emploi Game Master pour être Game Master à Get Out. En plus, c'est la même boîte que j'avais vue sur la vidéo, tu vois.
Ouais.
Et avec Game Master à Get Out à Caen. Je fais, pourquoi pas, quoi, je vais tenter. Je connais pas le truc, mais en même temps, il n'y a pas de formation pour être Game Master, quoi. Il n'y a pas de diplôme. Peut-être que mon côté...
En plus, le fait que t'es le BAFA, j'allais dire le BAFTA, mais pas du tout, c'est pas ça, c'est rien à voir. Mais le BAFA, que t'es un master MEF, c'est ça?
C'est ça, ouais.
Je pense que ça a pu jouer en ta faveur, non?
Bah ouais, surtout j'ai mis ça en avant, en fait, dans le côté, j'ai mis en avant mes passions pour le jeu de société, pour le jeu vidéo, pour le fait que je savais déjà ce que c'était qu'un escape game, et le côté animateur aussi, justement, j'étais formé, même si c'était avec les enfants, c'était des choses que je pouvais réutiliser après. Pour être Game Master, donc je tente et puis on verra si ça passe. Ce qui est marrant, c'est que du coup, donc je suis rappelé pour un entretien. Je fais un entretien avec une autre personne, on est deux candidats en même temps. Et alors, ce qui est très drôle, déjà, une des épreuves qu'ils nous ont fait faire, on a fait une dictée, et en fait, j'ai dicté après, c'est que les messages que tu envoies comme indice, tu les écris sur un écran.
Ouais.
Ouais. Donc ça part mieux quand t'as pas une faute d'orthographe à chaque mot.
Parce que sinon, moi je penserais que les fautes d'orthographe, c'est forcément un code.
En plus, ouais, c'est ça. Donc dictée, très bien. Et vraiment, je me suis dit, mais s'ils me prennent pas, je comprends pas en fait. Parce que la personne d'à côté n'avait jamais fait d'escape game, limite ne savait pas ce que c'était.
Ok.
Elle parlait pas anglais. Comme moi, quand t'es prof, t'es obligé d'avoir un certain niveau en anglais obligatoirement maintenant.
Donc,
je suis pas bilingue, mais je me débrouille, quoi. Donc, je me suis vraiment dit, je veux pas paraître, présomptueux, mais normalement, ça passe, quoi. Et aucune nouvelle pendant, je crois que c'était facilement 3 mois.
Ah ouais?
Tant pis. Et justement, pendant les grandes vacances, je reçois un appel. Oui, bonjour, Get Out Caen, on t'appelle parce que t'as postulé pour un poste chez nous. On voudrait savoir si t'es dispo. Bah ouais, clairement. Le contact est vite passé. Enfin, vraiment, le courant est vite passé avec les patronnes et puis avec les collègues aussi. Et puis, je me suis aperçu que c'était super, quoi. C'est vraiment un super métier, en fait. C'est trop, trop bien. Parce que tu es là pour faire, comme on disait au début, tu es là pour faire plaisir aux gens. Tu es là pour que les gens passent un super moment et viennent kiffer. Et franchement, c'est trop génial, en fait. Déjà, de voir ce qui se passe derrière, dans les coulisses, ce côté, faut que tu ranges, que tu mettes bien les objets en place, que tu refermes les cadenas, que machin. Et après, quand tu regardes les personnes, tu essayes d'anticiper un peu ce qu'ils vont faire pour leur envoyer les messages au bon moment, pas les aider trop tôt ni trop tard. C'est... Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas genre je suis derrière l'écran, puis je suis comme ça, puis je fais rien, quoi. Je suis limite du vendeur ou je suis sur mon portable tout le temps. Faut quand même que tu aies une oreille à ce qui se passe et un œil à ce qui se passe, quoi.
Je pense qu'il y a que les personnes qui n'ont jamais fait d'escape game qui pensent ça des Game Masters. Parce que vraiment, tu le sens en fait, que t'es guidé de manière un peu personnalisée et tout ça, et que c'est un vrai taf, et qu'en plus c'est hyper. C'est un métier qui a l'air vraiment très varié, quoi.
C'est tout à fait ça. En fait, c'est un métier qui est vraiment. T'as un moment de rush, un moment de calme, un moment de rush, un moment de calme. C'est vraiment le rush quand tu dois tout ranger. T'as 5 à 10 minutes maximum pour ranger toute une salle, tout remettre en place pour que la session d'après arrive, faire le briefing, enchaîner le truc, etc. Et t'as le moment plus calme où t'es posé devant ton PC, tu écoutes une session, calme, on va dire entre guillemets, hein, ça dépend des équipes. C'est un métier qui est vraiment kiffant, qui est vraiment complet, et qui est vraiment super intéressant, quoi. Pour le coup, j'ai découvert que vraiment, je surkiffe encore plus que ce qui fait être animateur, en fait.
Ça te manque pas, ça te manque pas le, bah, de travailler avec des enfants, de leur faire découvrir tes passions, de leur transmettre ton savoir?
Au final, non. Déjà parce que je m'en resserre quand même en tant que game master, parce qu'on a en fait on a modifié pas on n'a pas modifié une salle, mais on a comment dire fait une nouvelle offre sur une salle où on fait une salle enfant, c'est-à-dire que où moi clairement je redeviens animateur parce que je suis avec les gamins dans la salle, je suis pas derrière mon écran, je suis vraiment dans la salle avec eux, et mon rôle, je prends un rôle d'un personnage et je les aide en direct, donc c'est vraiment plus de l'animation pour le coup que du game design. Donc je réutilise un petit peu vraiment tout ce que j'ai appris en tant qu'animateur dans ce truc là et du coup j'en ai régulièrement.
Est-ce que t'as eu des moments down depuis? Est-ce que t'as à nouveau eu des est-ce que t'as ouais, des moments où tu t'es dit ah peut-être que là je recommence à sombrer un petit peu, ou est-ce qu'au contraire en fait maintenant que t'as trouvé ta voie tout va bien?
En fait, oui, parce que bah justement, j'ai divorcé en fait, donc je me suis séparé de ma femme, donc ça a été un moment vachement difficile. Bah, en fait, comme a dit la première chanson Grand Corps Malade, on s'est quitté d'un commun accord, mais elle était plus d'accord que moi. Donc, alors, ce qui est cool, c'est qu'on s'est séparé bon pote. Okay. On a continué en fait à travailler ensemble pendant pas mal de temps. Donc, ça s'est bien passé, mais ça a été une période quand même difficile de. Ouf, ça fait plus de 10 ans que je suis, ça fait 10 ans que j'étais avec elle. Difficile quoi de se dire ok, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais justement, je pense que ce qui m'était arrivé m'a permis justement de pas ressombrer totalement. C'est-à-dire que j'étais pas bien. J'ai eu une période justement de pas terrible où j'ai déménagé justement de là où on était pour être dans un tout petit appart, en plus vraiment un tout petit truc. J'y ai vécu pendant 1 an et demi, je crois. Et vraiment minuscule, donc c'était pas ouf non plus pour aller bien. J'étais loin du boulot en plus. Au moment où j'ai pris mon boulot, c'était à Caen. Moi, j'étais encore dans la Manche. Donc, j'avais 3/4 d'heure de route chaque jour pour aller bosser. Donc, ça commence à faire long, tu vois. Quand c'est sur de l'autoroute et tout, c'est vachement fatigant. Et j'ai eu le mini déclic, en fait, de me dire bon, là, j'en peux plus. Je suis trop claqué. Donc, je déménage et j'ai du coup redéménagé pour me rapprocher de Caen. Donc, maintenant, je vis près de Caen. Et du coup, ça a été un deuxième mini déclic de me dire c'est bon, cette fois c'est le renouveau quoi. C'est vraiment, je vais dans un nouvel endroit, je suis même plus du tout dans la Manche, je suis dans mon nouveau boulot, nouvel appart, nouvelle vie, c'est let's go. Et ça va beaucoup mieux en fait grâce à ça en fait. Et justement, c'est ce premier choc en fait qui m'a permis de pouvoir travailler sur moi et de me booster moi-même en fait, justement. Et de me dire c'est bon, je m'en sors, cette fois je retombe pas dedans, c'est fini. Et let's go, je sais ce qu'il faut que je fasse pour aller mieux, donc c'est parti, j'y vais.
Ouais, t'as trouvé les outils pour te relever chaque fois que tu t'apprêtes à tomber. Ou...
C'est un peu ça, ouais. Et je dis pas que j'y arriverai à chaque fois, mais clairement, c'est ce qui m'a fait comprendre aussi. Justement, j'avais réussi à me relever, je me suis dit, putain, c'est cool, j'y arrive, maintenant j'y arrive. Quoi.
Et puis maintenant, tu sais que bah, s'il y a besoin, les psychologues, les médecins, tout ça, ça fait un bien fou, quoi.
C'est ça.
Oui, je me demandais d'ailleurs parce que ta dépression, elle arrivait quand tu étais prof. Prof, c'est un très beau métier, mais c'est aussi un métier très dur. Est-ce que vous êtes un peu conseillé ou voir est-ce qu'il y a un suivi dans l'établissement scolaire ou pas du tout?
Tu peux en avoir. Je crois que justement, il y a les psys, ce qu'on appelle les psy-EN, en fait, qui sont voilà, les psychologues de l'éducation nationale. Okay. J'aurais techniquement pu leur en parler. Après, à ce moment-là, c'était difficile, donc j'ai préféré prendre un psy indépendant, etc. J'ai préféré à ce niveau-là personnellement, mais oui, c'est quand même possible. Après, je trouve que l'accompagnement en général est pour moi déficient dans l'éducation nationale. Toutes les décisions qui sont prises, c'est un métier, comme tu disais, qui est vachement difficile. Tu dois t'adapter tout le temps aux nouvelles directives, aux nouvelles choses, c'est vraiment compliqué. Et c'est ce qui a fait en fait que j'ai pas non plus supporté, c'est que je veux bien m'adapter, mais je veux pas que ce soit au détriment des gamins, tu vois. Donc quand tu dis à des gamins, moi cette année on fait ça, et puis l'année d'après, bah finalement on fait le contraire.
Bah, c'est perturbant quoi.
C'est perturbant pour eux, c'est perturbant pour les profs, c'est. Là, justement, je me suis fait vraiment un groupe de potes pendant le master, qui sont toujours mes potes aujourd'hui. Et d'ailleurs, je les remercie. S'ils écoutent le podcast, je les remercie énormément parce que j'avais une énorme peur quand j'ai arrêté d'être prof. C'est-à-dire que moi, j'ai réussi à avoir le CAPES la première année. On était sur un groupe de 20, on était 5 à avoir réussi à faire ça.
Waouh!
Sur un groupe d'une vingtaine. Donc ça veut dire que tous les autres n'avaient pas eu le CAPES. L'année suivante, je crois qu'ils sont 2 ou 3 à avoir eu le CAPES. Ça veut dire qu'il y avait quand même encore la majorité qui ne l'avait toujours pas. Et moi, cette année-là, je décide de tout arrêter. Donc je me sentais mal, en fait, de dire eux, ils n'y arrivent pas. Et moi, je jette, entre guillemets, aux orties un truc que j'ai eu du premier coup, tu vois. Donc j'avais peur de me faire rejeter, entre guillemets. J'aurais clairement compris qu'il me fasse la gueule. J'aurais clairement compris. Même si moi, je ne l'aurais pas fait, en fait. À mettre à leur place, j'aurais dit comme eux, en fait. J'aurais dit, non, mais c'est toi qui dois décider. Si t'es pas bien, t'es pas bien. Ouais. Sauf que j'arrêtais pas de me dire, ah ouais, mais si je leur dis, je vais me faire trucider. Et plus jamais, quoi. Ils vont vouloir me parler. Et j'ai mis des mois à leur en parler et ils ont été super. Ils ont juste été géniaux, enfin... Ils m'ont tous accueilli à bras ouverts. Au contraire, on m'a même dit qu'ils me trouvaient courageux d'avoir fait ce choix-là, de quitter l'éducation nationale, que c'était pas un choix évident et qu'ils trouvaient que c'était bien que j'ai fait ce choix-là et qu'ils étaient impressionnés presque par ça. Donc ça m'a fait beaucoup de bien aussi, à ce niveau-là, d'être soutenu. Et c'est toujours mes potes maintenant et je les vois, moi, galérer, surtout avec le contexte actuel. Hein. Pas évident non plus, l'éducation, c'est tellement... Hein. Coucou Jean-Michel. Mais on se fait des apéros visio régulièrement et on en fait un encore samedi. Mais je sais qu'on va voir à un moment donné, on va discuter de ce qui leur arrive et c'est chiant pour eux aussi. Et c'est là que je me dis que j'ai vraiment bien fait de partir, quoi.
Ouais.
Donc non, c'était le bon choix et c'est ça qui est cool, c'est que j'ai jamais regretté en fait d'avoir quitté l'éducation nationale. C'était un moment très difficile. J'ai réussi aussi à pas, non seulement à ne pas regretter mon choix, mais à ne pas regretter ce qui m'avait amené à ce choix-là non plus. Mais je ne me suis pas dit, genre, bah, super, mon DUT, il ne me sert plus à rien, ma licence, ça ne me sert plus à rien, j'ai perdu 5 ans de ma vie, super. En fait, non. Justement, j'ai réussi à me dire, non, tant pis, ça me sert. De toute façon, ça me servira. Soit j'ai rencontré des gens, soit j'ai appris des choses, même si c'est un truc, j'ai appris des trucs. Et c'est tout mon parcours qui m'a amené là, en fait. Et j'ai réussi vraiment à relativiser, et ça a été un gros travail aussi là-dessus. Bien, c'est ce qui m'a amené ici aussi. Je sais pas si je serais Game Master et si j'apprécierais autant mon métier si je n'étais pas passé par toutes ces phases-là avant, quoi.
Non, mais c'est ça, en fait, on a tendance à vouloir... Enfin, parce que c'est un peu culte de la performance et des bons choix et tout ça, à vouloir sortir du bac, choisir des études, faire ce métier-là et grimper les échelons. Alors qu'en fait, il y a plusieurs façons de réussir sa vie et d'être heureux, en fait.
Si j'avais un message à transmettre, c'est trompez-vous. Vraiment, trompez-vous. Juste faites des erreurs, mais apprenez-en de ces erreurs-là. Mais ne prenez pas ça comme c'est un truc gâché. C'est jamais un truc gâché, en fait. N'hésitez pas à dire, c'est pas pour moi. Ce qui m'a vraiment décidé à arrêter, c'est que je me suis dit, je veux pas devenir ce prof doc à 50 balais qui me dit, putain, j'ai gâché ma vie, j'ai fait que de la merde, et être le mauvais prof, tu vois, qui fait des mauvais cours, qui est pas intéressant, juste parce qu'il en a marre d'être là et qu'il a un jour pas voulu faire autre chose. C'est vraiment difficile de faire ce genre de décision, d'aller ailleurs, c'était une des peurs que j'avais, c'était qu'on me sorte à tout bout de champ, attends, t'as lâché un salaire de fonctionnaire, un travail assuré, et tout ça, pour gagner moitié moins, et ça se trouve te perdre ton boulot dans 2 mois. Bah oui. Oui, j'ai fait ce choix-là. Ouais.
Et tu regrettes zéro.
Et je regrette zéro.
C'est génial.
Je crois que c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. Je dis pas à tout le monde, allez-y, c'est bon, lâchez tout, c'est parti. Non, c'était quand même un choix réfléchi. Évidemment, il faut que ce soit quand même des choix réfléchis. Il ne faut pas que ce soit des trucs impulsifs. C'est des grosses décisions dans la vie. Mais à partir du moment où tu as fait, ou t'as étudié tes choix, lance-toi, quoi. Si tu penses que ça peut le faire, lance-toi.
Trop bien. J'ai envie que ce soit le mot de la fin, alors. Merci beaucoup, Pierre.
Merci à toi. Merci pour l'accueil et puis pour le podcast. C'est vraiment super intéressant. Je crois que c'est la première fois que j'en parle aussi longtemps de tout ça. Et c'est ce que j'avais envie aussi, c'est de partager. Quand j'ai vu toutes ces personnes qui partageaient leurs expériences et je me suis dit, c'est cool. C'est vraiment cool, toutes ces personnes qui partagent leurs petits moments de vie et tout. Et Je dis, bah, pourquoi pas moi, quoi, au final, si ça peut aider même une ou deux personnes à relativiser ce qui leur arrive ou à, justement à passer le cap, ça vaudra le coup, quoi.
Bah ouais, mais c'est pour ça qu'on a lancé le déclic, effectivement. C'est pour bah, entendre tous vos témoignages tellement inspirants qui vont tellement motiver plein plein de gens et ça fait trop plaisir, quoi.
Bah, merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté le déclic de Pierre et merci à Pierre d'avoir accepté de se confier à notre micro. N'hésitez pas à aller découvrir nos autres formats, la chanson et l'apéro, à vous abonner sur votre application d'écoute préférée et à nous mettre 5 étoiles et un commentaire. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux @18h17production. Vous verrez, on est sympa. À bientôt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.